Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.
Nous poursuivons maintenant cette discussion avec André Gounel sur les théologiens du process.
Quand je vous ai parlé des théologiens du process, vous m'avez dit donc je vais d'abord parler de Tillich. Quelle est la différence entre Tillich et ensuite les théologiens du process?
Alors les théologiens du process, c'est venu. Je les ai rencontrés un peu. C'est un peu la même époque, mais un peu après. Là aussi, c'était l'époque après 68 où on parlait beaucoup des théologies de la mort de Dieu, qui faisait scandale. Et dans ma paroisse, il y avait des gens complètement scandalisés, et puis d'autres, au contraire, qui avaient tendance à s'en réclamer de cette théologie américaine de la mort de Dieu. C'est des noms maintenant oubliés, c'est Altizer, c'est Hamilton, c'est... j'ai voulu savoir ce que c'était.
C'est une bonne question, effectivement. Qu'est-ce qu'un pasteur peut faire de la théologie de la mort de Dieu ?
Oui, qu'est-ce que d'abord ça veut dire ? Ce n'est pas si simple que ça. Qu'est-ce que ça veut dire, la mort de Dieu ? Alors, j'ai été voir, difficilement, c'était des livres en anglais, que j'avais un peu de peine à faire venir des États-Unis. Maintenant, c'est facile, mais à l'époque, c'était compliqué de faire venir un livre des États-Unis. Je vois la tête des libraires quand je leur demandais de me commander un livre aux États-Unis. D'ailleurs, ils ne le commandaient pas. Et l'un d'eux a eu l'honnêteté de me dire, si vous commandiez 20 exemplaires, on le ferait. Mais un exemplaire, vous devez...
C'est trop compliqué.
C'est énormément de peine pour peu de bénéfices.
Oui.
Voilà. Alors, heureusement, j'avais des amis outre-Atlantique. J'ai lu, et puis je trouvais que finalement, leur critique de la notion de Dieu, de l'idée de Dieu, de l'idée que nous faisons de Dieu, la doctrine de Dieu développée par la théologie chrétienne, était assez juste, et qu'elle rencontrait des objections auxquelles j'adhérais tout à fait. Par exemple, l'idée de la toute-puissance. Est-ce que c'est soutenable, la toute-puissance ? Ce n'est pas un thème biblique, hein, je le signale en passant, parce qu'on croit souvent que c'est biblique, et la toute-puissance, ce n'est pas dans la Bible. C'est les traducteurs qui l'ont mis dans la Bible, en traduisant le terme El Shaddai par tout-puissant, ce qui est probablement un contresens. Il y avait là toute une critique qui me paraissait juste. Mais la conclusion qu'ils ont tirée, c'est-à-dire qu'il fallait faire un christianisme athée, selon le titre d'un livre de Thomas Altizer, me paraissait, elle, complètement vide, complètement insatisfaisante, complètement fausse. L'évangile de l'athéisme chrétien, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Enfin, pour Altizer, ce que ça veut dire est assez précis. Mais je n'étais pas, du coup, d'accord. Pour faire comprendre ma pensée, nous avons, pendant des années, pendant des siècles, en Occident, représenté le ciel avec l'astronomie de Ptolémée. Et un jour, on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas. On n'a pas conclu que le ciel et que les astres n'existaient pas. On a cherché une autre astronomie pour rendre compte de ce qu'on observait dans le ciel. Eh bien, de la même manière, si l'idée que l'on a de Dieu, la doctrine que l'on a de Dieu, à un moment ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire qu'il faut éliminer Dieu. Ça veut dire qu'il faut le penser autrement. Et alors voilà qu'au cours de mes lectures, je tombe sur un article de quelqu'un dont je n'avais jamais entendu parler, John Cobb, qui soutenait exactement cette thèse. C'était un volume sur les théologies de la mort de Dieu. Il disait qu'ils ont raison dans leur critique, mais pas du tout dans leur construction. Et il faut chercher ailleurs. Et je m'étais dit, tiens, il faudra, quand j'aurai le temps, bon, j'étais encore pasteur de paroisse et...
Vous aviez encore du temps à ce moment-là ?
Non, je manquais plutôt de temps pour mes recherches.
Ah bon ?
Et il y avait bien des choses que je mettais de côté. Il faudra que... Alors Cobb se réclamait d'un philosophe, alors là je l'avais entendu parler, qui s'appelait Whitehead. Et j'ai rencontré un professeur de philosophie qui m'a parlé de Whitehead, qui m'a passé des œuvres de Whitehead. Puis j'ai rencontré à Montpellier un professeur américain qui était tout à fait dans ce courant-là, qui m'a... il passait l'année sabbatique à Montpellier, en partant, il m'a laissé un certain nombre de livres. Et je me suis dit, il faut absolument travailler ça. Et pour pouvoir le travailler... je l'ai mis au programme de un trimestre de la faculté de théologie, un trimestre que j'ai conduit en tandem avec Bernard Raymond qui partageait mon intérêt pour ça. Et nous avons eu un semestre assez exceptionnel parce que, contrairement à mon habitude, je rentrais dans un sujet que je ne connaissais pas, que je connaissais mal. Et donc j'apprenais en même temps que les étudiants, avec les étudiants, et avec des épisodes, on découvrait une référence. Je passais un coup de téléphone à un ami qui habitait à Montréal en lui disant « envoie-moi d'urgence ce livre ». Le livre arrivait et j'y passais la nuit, le lendemain je faisais un cours dessus.
D'accord.
Une espèce de découverte un peu jubilatoire, d'ailleurs aussi pour les étudiants qui ont participé. Alors, quel est l'apport de la théologie du process? C'est une théologie très américaine. Très américaine parce que ses références sont effectivement à des philosophes américains que nous ne connaissons pas. Whitehead était anglais, mais c'était un mathématicien, mais qui à 62 ou 63 ans est parti aux États-Unis, à Harvard, et on lui a donné une chaire de philosophie. Il avait envie d'une chaire de philosophie. Et il a fait une œuvre philosophique considérable, mais qui est aussi d'une lecture, c'est pas... même Descartes à côté est limpide. Enfin,
ah bon.
C'est d'une lecture tout à fait complexe. Mais c'est... Il y a dans la tradition philosophique américaine, complètement méconnue et méprisée à cette époque-là, toutes sortes d'éléments qui préparaient la réception de Whitehead.
Alors finalement, vous avez reconstruit le Dieu comme après Ptolémée, on a reconstruit le ciel. Qu'est-ce que vous avez mis à la place donc de ce Dieu qui a été débouté et qui a été délogé par les théologies de la mort de Dieu? Comment vous avez remplacé la toute-puissance ou tous ces thèmes que vous avez évacués?
Oui, j'ai évacué pas. C'est-à-dire que j'ai essayé de retrouver le sens. Il y a une image de Tilly que j'aime beaucoup, qui dit que souvent les notions philosophiques ou c'est un peu comme des billets de banque ou des pièces de monnaie qui ont trop circulé, qui sont complètement usées et qu'on n'arrive plus à lire, qu'on n'arrive plus à voir, et qu'il faut faire un nettoyage. Ou bien on pourrait prendre une autre image de dire À Montpellier, il y a cette place de la Comédie. Je me souviens, autrefois, elle était noire. Elle était sinistre. Mm. Quand on a nettoyé, on a redécouvert que ces immeubles étaient beaux et que la place était lumineuse. Mm-hmm. Et alors, il y a une sorte de nettoyage à faire plutôt qu'à proprement parler une élimination. Mais c'est clair que la notion de toute-puissance, par exemple, est une notion qu'on ne peut pas garder, mais et par contre, je ne dis pas que Dieu est impuissant, je dis qu'il est une puissance. Il est une puissance, pas totale, mais une puissance à l'œuvre, une puissance... Alors, les théologiens du process ont un mot que j'ai repris dans le titre d'un de mes livres, « Dieu est un dynamisme mm-hmm. ». Pas celui qui ordonne et commande tout, mais un dynamisme à l'œuvre dans nos vies et dans notre monde. Et c'est la grande idée que j'ai retenue de la théologie du process, à côté de la quantité d'analyses qui me paraissent intéressantes, c'est celle de Dieu pensé comme une dynamique, un dynamisme. Et ce qu'il y a de fort dans le, à la théologie du process, c'est d'être une théologie tournée vers l'avenir. Il y a un chant américain, je ne me souviens plus, c'est un chant de bataille qui se glory, glory, alléluia, glory, glory, qui parle du Dieu qui vient. Mm-hmm. Il vient.
Et c'est ça la théologie du process, c'est aussi la création qui se continue. C'est,
exactement.
C'est cet aspect dynamique qui est central, en fait.
C'est l'aspect d'une création qui n'est pas achevée, qui ne sera jamais achevée, et qui est toujours une marche en avant. Dieu est celui qui constamment insuffle du nouveau dans le monde. Il n'est pas celui qui garantit l'ordre. Il est celui qui fait aller de l'avant, qui pousse en avant. Alors, c'est une théologie qui est très tonique, et elle a eu d'ailleurs, après un premier accueil un peu amusé, un peu étonné de cette étrangeté que j'introduisais en France, il y a eu une sorte d'accueil qui a été fait. Et là, je constate que très souvent, dans les prédications de mes anciens étudiants ou de gens qui n'ont pas été mes anciens étudiants, je trouve beaucoup cette idée du dynamisme. Et alors, ça m'amène au troisième homme qui m'a marqué, qui lui est d'un tout autre univers, c'est Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, bien entendu, j'en avais toujours entendu parler. En protestantisme, on connaît Albert Schweitzer. On se raconte l'histoire de l'embarréné. On en fait, à tort d'ailleurs, parce que on en fait un saint. C'est peut-être un saint, mais pas au sens d'un homme parfait. C'est un homme qui avait ses défauts, mais qui avait une force et une générosité absolument fantastique. Mais d'une certaine manière, cette image de Schweitzer cachait beaucoup de choses. C'est-à-dire que on voyait l'humanitaire, on voyait le fondateur d'un hôpital, celui qui était allé soigner des populations qui étaient abandonnées médicalement, et on oubliait complètement la pensée. Alors on mentionnait bien qu'il avait fait une thèse de Nouveau Testament, qu'il avait été professeur quelques années à Strasbourg, mais on ne prêtait pas vraiment attention à sa pensée. Et là, c'est à travers l'œuvre de quelques traducteurs, en particulier Jean-Paul Sorgue, que j'ai redécouvert cette pensée et que du coup, pour moi, je ne dis pas que l'embarréné est du secondaire, c'est pas vrai, c'est pas. Mais c'est pas ce qui m'a marqué. Ce qui m'a marqué, Schweitzer est l'homme qui le découvre pratiquement, que la prédication de Jésus, c'est le royaume vient, le royaume s'approche. C'est le début de Marc. Et Schweitzer dit le christianisme s'est centré sur la commémoration. Le christianisme s'est centré sur ce qui s'est passé dans les 30 ou 40 premières années de notre ère. C'est la croix et la résurrection. C'est le drame de la rédemption, on revient toujours à ça. Et Schweitzer dit, c'est pas du tout ça qu'annonçait Jésus. Ce que Jésus a annoncé, c'est que le royaume de Dieu vient. Et c'est ça la prédication de l'Évangile, que le royaume de Dieu n'est pas là, mais qui n'est pas non plus au ciel ou dans un... Mais qu'il vient, qu'il s'approche, qu'il travaille le monde. Et Schweitzer disait qu'à une foi archéologique tournée vers le passé, il fallait substituer une foi eschatologique. Eschatologique en grec, ça veut dire ce qui se rapporte à la fin. Mais à la fin des choses, une fin qui n'est pas la terminaison, qui est le but. La fin en tant que but. Une foi qui est tournée vers l'œuvre à accomplir et l'œuvre que Dieu a accomplie. Et que le christianisme n'est ni un pessimisme qui dit le monde va mal et il faut un salut dans un ciel, dans un univers autre. Il n'est pas non plus un optimisme qui dit tout ce qui existe a été voulu et fait par Dieu. Le christianisme, c'est un dynamisme qui dit le monde va mal, mais il est perfectible. Il faut travailler. Ce à quoi l'Évangile nous appelle, c'est travailler à sa perfection. Et là, on retrouve l'accent de la théologie du process sur l'avenir, et aussi quelque chose qui est chez Tillich dans sa vision d'un socialisme chrétien, et dans sa vision de Dieu comme une puissance qui n'est pas toute puissante, parce qu'elle s'affronte toujours à ce que Tillich appelle le non-être, c'est-à-dire la négation de ce qu'il y a de négatif.
si vous ne l'aviez pas fait, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont relié justement les théologiens du process avec Schweitzer? Parce que moi, j'avais jamais entendu parler de Schweitzer autrement que effectivement aller soigner les lépreux, enfin tout ce côté qu'on connaît qui est presque mythique. Mais cette réflexion philosophique, elle est connue ou vous avez été un des seuls à le connaître?
Curieusement, les théologiens du process eux-mêmes, John Cobb, ça c'est un échange avec Bernard Raymond. C'est Bernard Raymond qui lui a fait découvrir cette dimension de Schweitzer, il ne savait pas. Il avait dans la tête l'humanitaire qu'il admirait, mais il ne savait pas. Je trouve que cette réflexion de Schweitzer, oui, elle a été mise en... elle a commencé à être mise en avant il y a 20-25 ans par des... il y a un petit livre de Laurent Gagnebin qui... Il y a le travail de Jean-Paul Sorgue que j'ai cité, qui a fait une œuvre de traduction de Schweitzer admirable. On pourrait presque dire que c'est un bénédictin de Schweitzer. Il a traduit, et en particulier traduit ses prédications. Et les prédications de Schweitzer, qui ont été publiées, pas toutes, mais un recueil, c'est toute sa pensée.
C'est tout ce que vous venez de me dire, là, c'est... j'avais préparé une série de questions sur comment vous voyez la transmission du protestantisme, quelles réponses vous pouvez apporter à ceux qui se posent telle ou telle question. Et finalement, en m'expliquant ce que vous venez de m'expliquer, la théologie du process, etc., vous avez complètement bouleversé mes questions, dans le sens où vous répondez d'une certaine façon... d'une autre façon aux questions que j'aurais posées. C'est-à-dire que les questions que je voulais poser n'ont plus de sens par rapport à ce que vous dites, puisque vous évoquez complètement un autre système de pensée. Enfin, moi, et pourtant, je connaissais quand même, puisque j'ai quand même lu un petit peu vos ouvrages, mais à ce point-là, je n'avais pas remarqué à quel niveau c'était novateur. Est-ce que vous avez conscience de cette rupture entre ce que vous dites, entre ce que est-ce que le protestant de base qui va au culte de temps en temps, qui aimerait bien connaître plus de choses, mais qui n'est pas très féru en philo, est-ce que vous pensez pas qu'il peut y avoir une distance? Comment faire pour rendre ça encore plus accessible?
Alors j'ai deux remarques. D'abord, oui, c'est une innovation. En même temps, moi, je suis sensible à des traditions, à des héritages, à des gens qui s'inscrivaient dans le passé dans cette ligne, mais qu'on a un peu oublié. Wilfred Monod, par exemple. Wilfred Monod, il y a beaucoup de thèmes qui sont les thèmes proches de la théologie du process. Il y a quelqu'un en Allemagne comme Ernst Rösch, mais c'est des gens qui ont été... complètement oublié. Et en allant dans l'histoire, là, hier ou avant-hier, je travaillais sur un texte de Zwingli que traduit mon frère. Et je me disais, mais on a une réflexion sur l'être et Dieu. Je ne veux pas dire que c'est illique, c'est pas vrai. Mais enfin, il y a une continuité. Un philosophe anglais, qui est un philosophe du process américain, qui est un philosophe du process, Hartshorne, a écrit un article sur Tillich et il avait intitulé « L'autre grande tradition ». C'est-à-dire que dans notre tradition, nous avons été sensibles à des notes dominantes, mais il y avait des mélodies autres qui couraient, et qu'on avait oublié, et que je crois, j'ai contribué, je ne suis pas le seul, à avoir revigoré. Alors ça, c'est un premier élément. Le second élément, c'est que, évidemment, la culture ambiante protestante et autres. D'où la nécessité d'un travail pédagogique, d'où mon effort pour écrire des livres qui ne sont pas des livres d'universitaires destinés à d'autres universitaires, mais des livres qui, même si certains ne sont pas faciles, des livres qui sont accessibles au grand public, d'où une activité de conférencier. J'ai des années, les dernières années d'activité et les premières années de retraite, je faisais 35 à 40 conférences différentes en France. C'est-à-dire qu'il y avait quand même tout un travail de pédagogie qui me paraît tout à fait nécessaire. Penser, oui, mais penser, c'est une responsabilité. Et j'ai souvent reproché aux philosophes français d'être des philosophes, d'être des professeurs qui écrivent pour d'autres professeurs, et qui oublie qu'être philosophe, c'est une tâche civique. Et un théologien, ça ne doit pas être un professeur qui écrit pour d'autres professeurs. Il a une responsabilité éducative et une responsabilité pastorale. Et puis, ceci dit, vous êtes historienne, vous en avez probablement conscience, les évolutions sont lentes.
Oui.
C'est-à-dire que là, il faut... 20, 30 ans, 40 ans pour que des choses changent, pour que des mentalités bougent, etc. Et il faut accepter ce temps. Quelquefois, il m'arrive de dire ça d'ailleurs à des anciens étudiants ou à des étudiants qui se plaignent du conservatisme des églises. Je leur ai dit, vous vous trompez. Si vous voyez l'église dans laquelle je suis rentré, jeune pasteur en 56-57, et la même église qu'elle est maintenant, le cheminement est considérable. Même si les principes structurants sont en gros les mêmes.
Oui, parce que vous avez cité des pasteurs qui étaient justement en poste dans ces églises que vous décrivez maintenant comme, enfin, que vous avez décrit à vos étudiants comme étant rigides. Et pourtant, il y avait déjà cette pensée. Alors, qu'est-ce qui a changé? C'est la réception des fidèles, c'est les structures ecclésiales. Qu'est-ce qui fait que nos églises peuvent justement devenir plus en phase avec la réflexion ou avec le monde moderne? Je ne sais pas si c'est clair.
Oui, en fait, le mouvement est constant, c'est-à-dire que quand on parle de la tradition des églises, et ça, mon travail sur le protestantisme l'a montré, on parle de l'église de ses grands-parents, mais pas d'il y a trois siècles. Et on se trompe en croyant que les grands-parents, c'était qu'on a toujours fait comme ça. J'entendais des gens, quand on a changé la liturgie, dire que c'est la liturgie qu'on a toujours eue. C'est pas vrai. La liturgie qu'on utilisait dans les années 50 était une liturgie qui avait été forgée à la fin du 19e, au début du 20e. C'était pas... elle remontait pas à Calvin ou à... Alors, oui... il y a des évidences qui apparaissent quand même, et on ne peut pas ignorer que le christianisme en général, le protestantisme en particulier, est très secoué à notre époque. Il est très... il passe, en tout cas, dans le monde occidental, par une mauvaise passe où il a beaucoup de peine, d'où l'importance d'un renouvellement. Comment dirais-je, mon ami Gérard Deltier, il disait, il y a 40 ans, un jeune pasteur était porté par la fonction pastorale. Aujourd'hui, un jeune pasteur, il doit créer la fonction pastorale. Il n'est plus aidé par cette fonction, mais elle pèse sur lui. Il faut qu'il arrive à la renouveler. Alors, tout ce qui a secoué fait aussi qu'on est obligé d'essayer on est incité à, à repenser, à aller de l'avant, à voir les choses autrement.
Avez-vous peur pour l'avenir du protestantisme libéral, notamment?
Je me réfère, quand on me pose cette question, très souvent à Paul Tillich, et en particulier à deux articles, un qui publie avant la guerre, c'est donc pas d'hier, c'est de 36, qui intitule « La fin de l'ère protestante ». Et la question que se pose Tillich, c'est le protestantisme est né au XVIe siècle, est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre la fin de l'ère protestante? Et puis, il publie un second article, en 47-48, après des années aux États-Unis, qui s'intitule aussi « La fin de l'ère protestante », mais avec un point d'interrogation, ce qui n'était pas le cas du premier article. Et là, son thème, c'est de dire il est tout à fait possible que les structures protestantes, les structures ecclésiales, les structures autres, soient amenées à s'achever. Mais ce qui continuera d'une autre manière, sous d'autres formes, c'est ce qu'il appelle l'esprit du protestantisme, c'est-à-dire cette affirmation que Dieu est présent, que Dieu est Dieu, et que Dieu est toujours au-dessus et différent de ce que nous en disons et de la manière dont nous le pensons et la manière dont nous le concrétisons dans notre vie. Il y a donc, et je suis tout à fait de cet avis, je me pose souvent des questions sur l'avenir des structures, et des questions qui ne sont pas... qui sont lourdes, parce que je suis attaché à ces structures. Mais par contre, l'esprit du protestantisme, ça je crois que tant que l'homme est homme, il ne disparaîtra pas.
Je vous remercie, je vous remercie pour ce témoignage. Je dois dire que vous avez répondu à toutes mes questions, enfin, peut-être pas à toutes mes questions, parce que comme je vous ai dit, ça a basculé, ça m'a un petit peu décentré de ce que je pensais, de ce que je voyais. Merci beaucoup.
Thème et anathème, une émission proposée par Yolande Gounelle.